vomissements.
Moi, en tant qu'ancien marin, c'était normal.
Une nouvelle traversée, la semaine prochaine, à la même heure, dans la méga combi de Radio Canu. Méga combi, c'est fini.
Et dites-vous de cette tenue d'évasion.
Bien.
La prochaine méga combi, c'est mercredi.
Combien de tentatives t'as fait? 3 en surface, 7 en sous-sol.
Dans un instant, c'est les infos.
Spécialiste, hein?
Méga combi, c'est fini.
Quel genre d'évasion est-ce que vous projetez?
La prochaine méga combi, c'est mercredi.
On se faufilera la nuit dans un coin que j'ai repéré près des barbelés, un angle mort.
Alors l'apéro, le bédo et un dernier petit mot.
Et puis on creusera jusqu'à 1 mètre. La terre, on la répandra à la surface pour pas que ça se voie ensuite. Tout droit.
La prochaine méga combi, c'est mercredi.
On s'enfuira dans le sol comme 2 taux. Et au petit jour, on aura passé des barbelés, on n'aura plus qu'à s'enfoncer dans les bois.
Méga combi, c'est fini. La prochaine méga combi, c'est mercredi.
Alors, l'apéro, un petit bédo. Et puis dodo.
Et très tard. Maintenant au plus tard, je vais tout ranger. Bien, maintenant. Et très tard.
Bonne nuit.
Bonne nuit, c'est
je déteste les changements de dernière heure, mais ils ont bien de m'avertir.
Alors, l'apéro, le bédo et au dodo.
Ici Radio Canu, c'est le Canu Info, on est le 21 octobre, il est 19h, passé de 2 minutes, et on va commencer ces infos avec les émeutes à Moirans.
Et ensuite, on parlera de l'État et des contrôles aux faciès.
Ça sera suivi d'une interview de Francis qui nous parlera de la grève à la poste de Lyon Centre.
Ensuite, on aura des révélations du programme de drones américains.
On parlera ensuite de la révolution qui démarre peut-être au Congo-Brazzaville.
Et ensuite, on aura une grande et longue interview, mais passionnante, d'un camarade turc d'initiative anarchiste d'Ankara, qui s'appelle Devrin, et qui reviendra notamment sur les derniers attentats qu'il y a eu en Turquie.
Les obsèques du jeune homme qui devait être enterré à Moirans ont finalement eu lieu aujourd'hui dans le calme, malgré le fait que son frère qui était en prison n'a finalement réellement pas pu y assister. Alors on rappelle très rapidement, c'est des gens du voyage, il y en a un qui est mort dans un accident de voiture volée. Et son frangin était en prison. Du coup, normalement, dans ce cas-là, on peut faire une demande pour sortir de prison et aller assister aux obsèques de proches et de gens de la famille. Là, en l'occurrence, le juge d'application des peines a refusé la sortie une première fois. Il a refusé une deuxième fois ce matin. La mère des deux avait décidé dans un premier temps, puisque c'était ça, de ne pas faire les obsèques. Bon, les obsèques ont finalement eu lieu cet après-midi. Le procureur de la République de... Ah, bah oui, non, mais ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, à cause de ça, les gens du voyage se sont mobilisés. Et quand ils se mobilisent, bah, ils se mobilisent un peu sérieusement. Donc on en est à 35 voitures brûlées dans la soirée d'hier soir. Après l'annonce du rejet... Ah oui, non, pardon. Après les émeutes, les autorités se préparent à tous les scénarios, alors que plus de 200 gendarmes restent mobilisés sur place, c'est ce qu'indiquait le préfet de l'Isère. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a lui promis qu'il n'y aurait aucune complaisance de l'État envers les auteurs des violences commises par des gens du voyage. La plus extrême fermeté sera à l'œuvre dans les jours et les heures qui viennent à l'égard de quiconque s'engagerait à enfreindre le droit dans le département de l'Isère. Manuel Valls, lui, a assuré à l'Assemblée nationale que les auteurs des violences commises à Moirans seraient implacablement recherchés et poursuivis en justice. Ceux qui veulent tordre le bras à la justice, tordre le bras aux forces de l'ordre, tordre le bras à la République s'exposent à une réponse d'une extrême fermeté. Ils doivent s'attendre, ceux qui ont agi hier, à être implacablement recherchés et poursuivis en justice. C'est toujours Valls.
J'adore sa rhétorique.
Ouais, c'est magnifique.
De plus en plus poète.
Alors, on va quand même rappeler que tout ça, toutes ces voitures cramées, toutes ces futures arrestations, toutes ces déclarations martiales, tout ce qui s'est passé à Moirans et tout ce qui va continuer à se passer en termes de répression, tout ça a lieu uniquement parce qu'un juge d'application des peines a refusé de laisser un gars sortir de prison pour quelques heures, le temps d'assister aux obsèques de son frère, de son propre frère. Alors, on va laisser à François Hollande la responsabilité de sa déclaration. Une déclaration digne de François Hollande, généreuse, brave, humaniste, qui trouve que cette décision du juge d'application des peines est particulièrement opportune.
Et on va continuer un petit peu avec les frasques de celui qu'on pourrait appeler François H. Et ses amis, disons. Le contrôle aux faciès, donc, et l'État qui serait remis en question. Le Premier ministre a décidé de contester les décisions de la Cour d'appel de Paris, condamnant l'État pour discrimination à l'encontre de 5 hommes contrôlés par la police sur la base de leur origine. Le pourvoi en cassation introduit par l'État reflète le choix du gouvernement de laisser perdurer les contrôles aux faciès, l'inverse des engagements du candidat Hollande. Quelle surprise! Dans cette procédure en justice, où il y avait 13 hommes qui se plaignaient de ces contrôles, le gouvernement n'a reculé devant rien, allant même jusqu'à prétendre que les règles d'égalité et de la non-discrimination ne s'appliquaient pas aux forces de l'ordre. Comme ça.
Ah oui.
Ben oui, tout simplement. Pourquoi chercher plus loin? La Cour n'a pas suivi cette défense absurde, ça arrive parfois, et a rappelé un truc complètement dingue: les actions policières doivent être menées dans le respect des principes de non-discrimination. Il paraît que c'est une décision historique, moi j'adore ce pays. Pour la première fois, l'État a été condamné par la justice pour des contrôles d'identité aux faciès donc. La Cour a rappelé que l'État est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les discriminations, obligation qu'il n'a pas respectée. Elle a également considéré que l'absence de remise d'un récépissé après un contrôle d'identité empêche les victimes d'avoir un recours efficace en cas de discrimination ou d'abus. Et que le rôle de la police est d'exercer ses missions sur des bases objectives et non sur des critères ethniques ou physiques. Plutôt donc de contester des décisions qu'ils mettent en cause, le gouvernement devrait tirer les conséquences de ces décisions en introduisant un système de récépissés. C'est ce que disent les associations qui sont en train de se soulever contre ce recours en cassation.
Et c'est ce que François Hollande avait promis pendant sa campagne électorale.
Exactement. Et du coup, ils attendent qu'il modifie le cadre législatif qui permet les contrôles afin d'autoriser uniquement des contrôles fondés sur des critères objectifs. Mais non, mais non, mais non. Le gouvernement a donc décidé de se pouvoir en cassation car lui aussi, il veut se sentir libre de ses choix. Non, non, non. Dans le même temps, plus ou moins, le président de la République a ainsi rappelé dans son discours au camp des Milles, dans les Bouches-du-Rhône, que la République ne connaît pas de race ni de couleur de peau, elle ne connaît pas de communauté, elle ne connaît que des citoyens libres et égaux en droit. Ce principe n'est pas négociable et ne le sera jamais. On l'aime, on l'adore.
Oui, alors on voulait parler de la grève qui est actuellement sur le bureau de poste de Lyon Centre à Bellecour. Donc on a avec nous Francis.
Bonjour.
Bonsoir. Bonjour. Alors donc toi Francis, d'abord est-ce que tu peux nous dire donc tu travailles à la poste de Lyon Centre, quel est ton travail toi ?
Alors moi je suis facteur à Lyon Centre depuis bientôt une dizaine d'années. Et donc je suis avec mes collègues en lutte depuis 3 jours contre une nouvelle réorganisation. Qui dit réorganisation dit encore saccage de nos emplois et dégradation de nos conditions de travail qui sont dégradées à une vitesse affolante en une dizaine d'années. Moi je fais le constat déjà rien qu'en 10 ans. Voilà, donc c'est une action qui est... qui part du ras-le-bol de l'ensemble des collègues et qui est de fait porté par un syndicat, vu qu'il faut un syndicat pour poser un préavis de grève. Mais là, c'est la réorg de trop, quoi. Donc, parce que non seulement, comme à chaque réorg, qui ont lieu à peu près tous les 2 ans, on supprime des postes, c'est-à-dire que les départs à la retraite, par exemple, ne sont pas remplacés. Donc ceux qui restent, ils font toujours plus de boulot sans compensation, sans être payés par rapport à la charge supplémentaire. Il faut savoir quand même que les dépassements d'horaires à la poste sont très fréquents. Ça, la population ne sait pas forcément.
Et les dépassements horaires, est-ce qu'ils sont payés ?
Très rarement. Voilà, donc voilà, chaque réorganisation, c'est toujours augmentation de la charge de travail. Et non-renouvellement de CDD, suppression de postes via les départs à la retraite, non renouvelés. Et là, ce qui est un peu inédit, c'est que la Poste veut nous faire supporter donc la charge de travail d'une partie de nos collègues de colis Poste. Moi, donc, je suis pour expliquer un peu plus le fonctionnement interne, qui n'est pas forcément connu. En ville, dans une grande ville comme Lyon, les facteurs, la plupart des facteurs ne distribuent que des lettres et des recommandés. Vu que bon, ils sont pas équipés pour avoir une charge de colis, voilà, ils sont à pied ou en vélo. Voilà, et là, on voudrait nous faire supporter la charge de donc des agents de colis poste, qui eux sont réorganisés aussi. De fait, on leur supprime, il y a plein d'emplois supprimés à colis poste actuellement, alors que le trafic augmente. On nous parle toujours de la baisse du trafic du courrier. La Poste s'est très bien communiquée là-dessus. En disant que, à écouter la Poste, ça serait catastrophique, le courrier baisse avec les mails. Voilà, pour la Poste, c'est vital, quoi. Ces réorganisations, c'est vraiment pour sauvegarder l'emploi, quoi. C'est toujours ce chantage-là. Il faut savoir que il y a le trafic des colis qui augmente dans le même temps beaucoup, quoi, qui augmente énormément. Et du coup, non seulement il n'y a pas d'embauche, mais maintenant la Poste fait carrément des économies sur le personnel de colis poste en supprimant des emplois, en ne renouvelant pas tous les précaires. Et du coup, là, avec cette réorganisation des facteurs, la Poste voudrait faire supporter tout ce travail-là par les facteurs. Donc en plus de leur tournée lettre habituelle, ils devraient faire les colis de leurs collègues à qui on a dit non, il n'y a plus de boulot pour vous. Donc c'est plus que choquant. Sans compter que nous, on n'a aucune. On ne sait même pas comment ça va s'organiser. On n'a aucune garantie sur est-ce qu'on va. Non seulement ça va être compté dans notre. On sait déjà que ce n'est pas compté dans notre temps de travail. Ça va être en plus. Hein. Et puis on ne sait même pas concrètement, des points très concrets, on ne sait même pas comment on va pouvoir emporter ces colis, on ne sait pas combien on va en avoir. Des collègues ont l'air de nous dire que nos collègues, on a quand même des contacts avec Colipost, donc ils nous disent que ça va être des volumes assez importants, contrairement à ce que nous dit la Poste, hein, enfin la direction je veux dire. Et voilà, on ne sait même pas avec quel matériel. Quelques jours avant, on ne savait pas du tout, quoi.
D'accord. Alors moi, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit avant aussi, c'est que effectivement, là, le préavis de grève a été déposé par Sud, mais je pense qu'on est d'accord pour dire que quelle que soit l'organisation syndicale, c'est pas important.
Les
collègues, c'est apparemment la colère des collègues. Ça aurait pu être un préavis de n'importe quoi. Voilà. Donc, et la question que je voulais te poser, Du coup, c'est donc on a compris que c'était que cette réorganisation qui avait fait le feu aux poudres, qui avait mis le feu aux poudres. Question que je voulais te poser, c'est du coup donc c'est que qu'est-ce qui se peut, comment se passe la grève, qu'est-ce qui se passe devant le bureau de poste fonctionnement, depuis depuis lundi matin.
Ah ben donc là on a une mobilisation qui faiblit pas depuis trois jours. On est organisé en collectif, c'est-à-dire que tous les jours on vote les décisions qu'on prend. On essaie de pas se faire récupérer par un syndicat et c'est ça qui est. C'est pour tous ceux qui le vivent en fait, pour ceux qui l'ont encore jamais vécu, parce que bon, il y a des gens qui font grève, qui ont fait grève là, qui ont jamais fait grève, ou d'autres qui ont pas fait grève depuis 15 ans parce qu'ils étaient un peu démoralisés. Pour tous ces collègues qui vivent ça, c'est une expérience quand même extraordinaire, je trouve, d'arriver à construire un collectif et de décider ensemble de ce qu'on fait sans qu'il y ait quelqu'un pour nous dire ce qu'il faut faire. Et voilà.
Alors, il y a à peu près combien de personnes devant le bureau, là?
Là, il y a entre 30 et 40 personnes, suivant les jours. Bon, parce que, bon, il y a des grévistes pour différentes raisons qui ne peuvent pas forcément être présents tous les jours. On comprend tout à fait des raisons familiales ou autres.
Moi, ce que je voulais rajouter, sinon, c'est qu'effectivement, j'ai vu les gens sont regroupés, il y a des banderoles, il y a eu des actions comme la diff de tract aux usagers devant le bureau de poste pour leur expliquer le mouvement. Apparemment, donc les gens se bougent. Et toi, est-ce que depuis que tu travailles à la poste, tu as déjà vu un mouvement de cette ampleur?
De cette ampleur, pas vraiment. Enfin, il y a déjà eu des grèves importantes, mais là, c'est la première fois que je vois que je vois que les gens se prennent en main leur destin, quoi, et qu'il y a vraiment un vrai collectif qui naît sur le piquet de grève, quoi. Et ça, c'est encourageant. Donc, quelle qu'en soit l'issue de la grève, on n'obtiendra peut-être pas ce qu'on souhaite, mais au moins, rien que pour ça, ça sera très, très, très important.
Et d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des nouvelles personnes qui n'ont jamais fait grève, qui font grève d'un coup, alors qu'il y a déjà eu d'autres organisations? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une ampleur qui est supérieure aux organisations d'avant?
Alors,
peut-être c'est dur à analyser au bout de trois jours.
On est encore dans le vif du sujet. Je pense que c'est aussi la poste qui les a poussés au bout d'un moment. Voilà, c'est... Quand la coupe est pleine, bon, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. C'est plus supportable. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être un travail de fond qui a été fait par certains militants localement pour que les gens se prennent en main, en fait, qu'ils n'attendent pas qu'il y ait un syndicat qui leur dise ce qu'il faut faire. Parce que bon, ça marche ou ça marche pas. La meilleure solution, c'est quand même que les gens se prennent en main. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire comment la direction réagit pour l'instant à ce mouvement de grève de forte ampleur et qui dure depuis trois jours et qui est limité et qui est...
Elle réagit un peu comme les autres fois, parce que bon, moi j'ai vécu déjà d'autres grèves, d'autres piquets de grève. On sent qu'on les embête quand même. Ils ont quand même dû prendre des intérimaires pour essayer de casser la grève, faut le savoir. Ça, la population ne sait pas. Il va falloir le diffuser.
Ce qu'il faut préciser, c'est une méthode complètement illégale de remplacer le poste.
Oui, bien sûr. Après, bon, ils vont sûrement trouver une entourloupe juridique. Peu importe. Mais bien sûr, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils rappellent tout leur petit cadre, tout leur chef Fayon, si je puis dire, de tout le département pour prêter main forte. Mais c'est une joyeuse pagaille à l'intérieur. Apparemment, les collègues qui sont à l'intérieur, qui nous racontent comment ça se passe, même les tournées qui sont faites sont très partiellement faites. Alors il y a eu la poste a communiqué dans un quotidien local, c'est lu.
Et le progrès.
Ah, je voulais pas citer, mais dans le progrès, du coup, il y a une large part qui est consacrée à la direction de la poste. Malheureusement, la voix des grévistes est très peu relatée.
Dans le progrès?
Du coup, selon La Poste, ça serait vraiment une grève très minoritaire qu'elle s'explique pas, elle comprend pas, elle a tout fait pour dialoguer. Il y a eu des entretiens individuels à plusieurs reprises. Pour elle, il y a, je crois, 96%, si je me trompe pas, des tournées à Lyon qui sont couvertes. Donc c'est vraiment une grève minoritaire de gens déterminés. Voilà, alors il faut savoir que La Poste, elle englobe certainement tous les arrondissements de Lyon. Je sais pas comment elle fait ses calculs, mais il faut savoir que les arrondissements de facteurs réorganisés, là, c'est-à-dire le premier et le cinquième, si on prend que ces arrondissements réorganisés, donc les gens directement concernés et qui sont sur piquet de grève, il y a à peu près même pas la moitié des tournées qui sont couvertes, qui sont faites, hein, voilà. Et comme je vous le disais, très partiellement. Voilà, c'est avec des facteurs qui n'en peuvent plus. Il y en a qui sont prêts à craquer, il y en a qui nous ont rejoints aujourd'hui, en fait, sur le piquet de grève, hein, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un petit aperçu de ce que ça va être après.
Alors, du coup, là, on va faire rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, j'aurais juste deux dernières petites questions. La première, ce serait qu'est-ce qu'il en est des autres bureaux de poste ? Et au niveau de l'ampleur de la mobilisation. Et la deuxième question, ce sera que peuvent faire les auditeurs, par exemple ? Est-ce qu'ils peuvent venir soutenir au piquet de grève ? Est-ce qu'ils peuvent venir faire des chèques pour remplacer la paye des gens qui sont en grève ? Voilà.
Bien sûr. Ce qu'il en est des autres bureaux de poste, ce que j'en sais, c'est que y a plein d'autres endroits où il en faut très peu pour qu'ils partent en grève comme nous. Faut savoir que hier, il y avait 14 bureaux de poste sur le Rhône qui se faisaient réorganiser le même jour. Voilà. Donc, il y a 13 autres bureaux de poste qui sont dans les mêmes galères que nous. Je sais pas tout, hein, précisément, mais je sais qu'il y a Lyon 3e qui subit pour l'instant, mais il y a quand même des contacts avec des camarades de
une délégation des grévistes de Lyon Centre, qui a rencontré les collègues de Lyon 3e.
Ont été très bien accueillis. Il y a déjà une douzaine de personnes qui sont très motivées, qui seraient motivées pour entrer en grève peut-être la semaine prochaine, donc voilà, on ne sait pas comment.
Ok, donc pour terminer.
Ça peut faire boule de neige.
Très bien. Du coup, juste pour terminer, je voulais dire que, donc pour l'instant, il y a un rendez-vous de prix avec la direction demain matin. Mm-hmm. Ça a été très difficile d'arriver à parler avec la direction.
Oui. Ils font tout, bien sûr, pour nous faire croire que c'est les syndicats, les grévistes qui ne veulent pas dialoguer, mais. Ils font tout pour que ça se passe mal, puisqu'ils nous.
Ouais. Ok, bon, et ben voilà, la grève a été en tout cas reconduite demain, si vous voulez passer au piquet de grève pour soutenir les grévistes. Voilà. Merci. Merci Francis.
Merci.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend des révélations du programme de drones des États-Unis ? Alors, petit rappel tout de même, les drones, c'est des espèces d'avions sans pilote à bord et donc pilotés à distance, équipés de tout un tas de capteurs, de caméras et de missiles. Les premiers drones n'étaient pas armés et sont apparus en 1995 en effectuant des vols au-dessus des Balkans. Alors moi, en écrivant cet article, j'étais assez surpris que ça date d'aussi vieux, je pensais que c'était plus récent que ça. Au départ, leur principale mission était de choper des renseignements à l'ennemi, mais en 2001, les premiers drones armés font leur apparition. L'utilisation de drones a été généralisée après les attentats du 11 septembre pour montrer à quel point ce genre d'engins sont craignos. Par exemple, le 4 février 2002, du coup post-11 septembre, une frappe de drone tue 3 personnes dans l'est de l'Afghanistan. L'un d'entre eux devait être Ben Laden. Eh bien non, en fait il s'agissait seulement d'un villageois qui ramassait de la ferraille, et les deux autres sûrement des potes à lui. Donc le site internet américain The Intercept a eu accès à de nombreux documents confidentiels filés par un lanceur d'alerte, un espèce de, d'Edward Snowden. Dans ce document, on apprend que jusqu'à 9 personnes tuées sur 10 n'étaient pas la cible sur une période de 5 mois en Afghanistan, par exemple. Autrement dit, sur cette période, 90% des victimes étaient des victimes collatérales, comme ils disent. On apprend également que les renseignements qui servent à cibler les personnes sont principalement électroniques et quasiment plus du tout humains, ce qui a pour effet direct la baisse de la fiabilité du renseignement. Avec les drones, par exemple, ils peuvent intercepter tout un tas de communications, trianguler les téléphones, etc., etc. D'après une source anonyme citée dans l'article, il est étonnant, là je cite, de voir le nombre de cas dans lesquels un sélecteur, autrement dit un identifiant unique, est attribué à la mauvaise personne. Et ce n'est que plusieurs semaines ou mois après que vous vous rendez compte que la personne que vous suivez n'est pas votre cible, parce que vous suivez en réalité le téléphone, par exemple, de sa mère. Donc voilà, et ça c'est pour les dénouements heureux où la personne n'a pas été abattue par un drone à ce moment-là. Les États-Unis possèdent donc une kill list qui sont ces personnes pouvant être abattues comme ça sur simple décision d'une longue chaîne certes de commandement militaire pouvant aller jusqu'au président, mais bien sûr sans aucun contrôle ni jugement. Officiellement, pour qu'une cible soit volontairement abattue, il faut que, et là je cite le document, la personne présente un risque continu et imminent pour la sécurité d'Américains. Alors, en réalité, les documents montrent aussi déjà qu'un critère plus flou, c'est-à-dire que, et là je recite, la personne doit présenter une menace pour les soldats américains ou les intérêts américains. Donc là, vous voyez quand même, ils ont bien élargi. Et en plus, on a par exemple l'exemple du Yémen où 490 personnes ont été abattues par des frappes de drones, alors que dans ce pays, très peu, voire en tout cas les militaires et les intérêts américains ne sont quasiment inexistants. Ce que montrent encore ces documents, c'est qu'avec cette technologie, le choix entre capturer ou tuer est vite devenu un non-choix au profit de tuer. Il est donc plus facile pour eux et moins risqué de tuer avec un drone que de capturer quelqu'un au sol, ce qui nécessite des personnes sur place, tout ça.
Des risques d'enlèvement, de mort, etc.
Ouais, c'est ça. Et en plus, du coup, comme Obama avait fait le choix un peu qu'il n'y ait plus trop de soldats morts aux États-Unis, de soldats américains morts en guerre, voilà, ça lui permet un peu de jouer avec ça. Le problème, c'est comme on l'a vu il y a quelques instants là, le renseignement devenant de moins en moins fiable, le risque d'erreur augmente considérablement. Avec toutes ces erreurs, le ciblage de mauvaises personnes, les victimes collatérales, le sentiment américain devient de plus en plus fort. Par exemple, en 2012, un type a été abattu suite à des dénonciations de ses voisins. Il était suspecté d'être un taliban, il avait été balancé comme tel. Sauf qu'en fait, il était négociant en bois et ce sont des concurrents qui ont menti sur son compte. Résultat, l'armée américaine a bombardé sa maison et tué toute sa famille.
La fiabilité des renseignements.
C'est ça. Et c'est donc sous Obama que l'utilisation de drones s'est généralisée. En 2002, au Yémen, une seule frappe de drone a eu lieu. En 2012, une frappe a eu lieu tous les 6 jours. En 2015, donc 490 personnes sont mortes suite à ces frappes au Yémen. Et là, on parle juste du Yémen.
Denis Sassou Nguesso va-t-il connaître le même destin que Blaise Compaoré? En tout cas, pour l'instant, le scénario de ce qui se passe au Congo-Brazzaville ressemble beaucoup à ce qui s'est passé il y a un an au Burkina. Le scénario, en gros, c'est un président qui est au pouvoir depuis à peu près toujours et qui cherche à modifier la constitution pour ne jamais avoir à risquer de devoir se chercher un autre job. La constitution de 2002 au Congo limite à 2 le nombre de mandats que peut exercer un chef d'État et interdit d'être candidat à la magistrature suprême pour toute personne qui est âgée de plus de 70 ans. Sassou Nguesso termine son deuxième mandat, attention, son deuxième mandat depuis l'adoption de cette nouvelle constitution, il était déjà au pouvoir avant, et il a 72 balais, donc 2 ans de plus que l'âge limite. Alors, il propose dimanche un référendum pour changer la Constitution. Et bien sûr, dans le projet de Constitution, il n'y a plus ces deux articles. L'article sur les deux mandats et l'article sur les 70 ans maximum. L'opposition à la réforme de la Constitution monte depuis quelques mois et à force de monter et de monter, hier, elle a mené à de violents affrontements dans tout le pays, dans la capitale et aussi beaucoup dans Pointe-Noire, qui est une ville de la côte. Et puis dans le reste du pays aussi. Hein. Plusieurs manifestants ont été blessés par balles. Certains ont peut-être été tués. C'est difficile d'avoir des informations exactes. Des leaders de l'opposition ont été arrêtés aujourd'hui. Ça semble assez sûr. Peut-être 6, peut-être 8. Et aujourd'hui, toute la journée, Brazzaville ressemble à une ville morte. Les magasins sont fermés, les écoles sont fermées, les bus ne circulent pas, tout ça. Et puis, depuis ce week-end, les SMS ne passent plus, Internet ne marche plus. La diffusion radio de RFI, qui est la radio la plus écoutée du pays, est arrêtée aussi. Alors bon, là-dessus, les ministres de Sassoon Nguesso nous expliquent que c'est normal, parce que quand c'est un peu le bordel dans le pays, tout le monde se jette sur Internet, alors les réseaux peuvent plus supporter, les téléphones pareil. Et puis RFI, ma foi non, il y a d'autres radios aussi qui seraient touchées, mais bon, il semble quand même que ça soit principalement celle-là. Et c'est des soucis techniques, et comment est-ce que le gouvernement pourrait en être tenu responsable? Bon. On va quand même se demander rapidement qui est ce Sassoon Nguesso. On va revenir dessus parce qu'il a une longue histoire de dictateur et surtout une longue histoire avec la France. Son histoire commence en décembre 69, quand il faisait partie des membres fondateurs de ce qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui le Parti Congolais du Travail, qui à l'époque était marxiste-léniniste. Alors, drapeau rouge, on chante l'international pendant les rencontres, etc. Mais il faut quand même bien dire qu'en 96, l'ancien PDG de ELF, alors ELF qui est donc une entreprise française qui a beaucoup, beaucoup à faire en Afrique et qui a beaucoup, qui travaille énormément avec l'État français. Globalement, ELF et l'État français, c'est quand même un peu la même chose. Et en 96, il y a un ancien PDG de ELF qui, après des petits soucis avec la justice, s'est lâché et a balancé énormément, énormément de choses. Donc lui, à ce moment-là, il explique que Sassoon Nguesso, déjà à l'époque où il était rentré dans le parti congolais du travail, déjà à l'époque, il était en train d'infiltrer le PCT. Du coup, Loïc le Floch Prigent dit le Congo était devenu en quelque temps marxiste, mais toujours sous le contrôle de ELF. Alors après, Sassoon Nguesso, c'est lui qui est à la tête d'un groupe de parachutistes dont sont issus les nouveaux maîtres du pays. En 76, le président, qui s'appelait Marianne Gouabi, décide d'augmenter la fiscalité du pétrole. ELF n'apprécie pas, ça pourrait donner des idées à d'autres pays dans lesquels ELF prend aussi du pétrole, et donc c'est en 76 qu'il décide d'augmenter ça, et en 77 il est à son tour assassiné. D'autres gens sont assassinés, dont en particulier le cardinal Émile Bayenda et l'ex-président congolais Massamba Déba. Et alors à ce moment-là, il y a un membre du comité militaire qui accuse Sassoon Nguesso d'avoir commandité ces deux assassinats. Ce capitaine est assigné à résidence dans son village natal et puis tué par l'armée congolaise avec des dizaines d'autres villageois. Là-dessus, Sassoon Nguesso arrive à la tête du pays, c'est en 79 pour la première fois. Et il y reste parce qu'à l'époque, on ne se faisait pas beaucoup chier avec des élections. Il reste jusqu'aux premières élections pluralistes qui ont lieu en 92 et il les perd. À ce moment-là, le président élu, Pascal Lissouba, a lui aussi l'idée de vouloir prendre un petit peu plus de la thune du pétrole pour le pays et non pour ELF. Jusqu'à maintenant, ELF laissait généreusement 17% de la thune du pétrole au pays. Et lui, il voudrait bien 34%. ELF n'est pas très très content. Là-dessus, guerre civile. Sassoon Nguesso est financé par ELF, soutenu par des milices qui sont intégralement payées par ELF et par un autre président voisin, mais je ne me rappelle plus lequel et je n'ai pas noté, qui est aussi un président à la botte de la France. Et pendant cette guerre civile, Il arrive au pouvoir, et ça c'est en 97. Finalement, le pourcentage du pétrole qui va rester dans les finances du pays reste à 17% et ne monte pas à 34%. Là on est un petit peu pressé parce qu'on a le camarade Devrim qui va venir parler après. Alors on va pas s'attarder sur quelques petits massacres de population, 300 prisonniers de la guerre civile qui, disparaissent à un moment pendant un transfert et qu'on n'a jamais revu depuis. En 2002, en tout cas, il y a à nouveau des élections. Et c'est à ce moment-là qu'est adoptée une nouvelle constitution. Et puis pendant ces élections, il y a un candidat qui est un peu un concurrent sérieux pour Sassou Nguesso. Ce candidat retire sa candidature 2 jours avant les élections. Le Congo est un pays riche en pétrole, mais 70% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. En gros, c'est juste les gens au pouvoir qui, eux, s'enrichissent, mais alors s'enrichissent énormément et très, très visiblement. Malgré les investissements dans les infrastructures, les routes et les chemins de fer, le Congo reste englué dans la pauvreté.
Yo, Moose, stop the car right here. There they go. All right, give it here. Mm-hmm. Oh, man, let me do it. Cool, guys.
I want to do it.
Stay in the car, man. Stay in the car. Stay in the car. Good. Hi, officers. We had a flat tire back there. Do you think you guys could help us out? Nah, that's not my job. My job's not to help your fucking ass out. I mean, I don't have any other way to get home. That's not my job, asshole. Well, could you tell me what your job is? Right now, my job is eating these donuts. Or maybe... Hey, wait a minute. Aren't you... Yeah. Body count. Body count. Body count.
Yeah,
body
motherfucker!
Count.
Body counts in the house. Body counts in the house.
Alors bonsoir, on reçoit ici un camarade qui vient de Turquie et qui va nous expliquer un petit peu la situation, notamment après l'attentat, etc. Alors voilà, donc c'est Devrim. Alors est-ce que Devrim... Ah oui, je tiens à préciser avant qu'on aura un traducteur, hein, parce que notre camarade Devrim parle turc et on a ici quelqu'un qui va faire la traduction. On le remercie. Alors d'abord, je vais commencer... Devrim, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, qui tu es?
Devrim, bize anlatabilir misin? Kimsin? Nereden geliyorsun? Nerelisin?
Ben Ankara'dan geliyorum. Ankara'da yaşıyorum. Orada Türkiye'de anarşi inisiyatifinde aktivistim.
Alors moi j'arrive d'Ankara. Je vis à Ankara et je fais partie de l'initiative anarchiste d'Ankara, qui est une organisation anarchiste.
Comme son nom l'indique. Voilà. Très bien. Alors, du coup, moi, je me demandais. Donc, on a beaucoup parlé en France de la Turquie suite à l'attentat d'Ankara. Donc, est-ce que tu peux nous resituer vite fait qu'est-ce qui s'est passé
işte Ankara'nın katliamından sonra. Fransa'da olsun, dünyada olsun, her taraftan işte Türkiye'den bahsettik ve bu katliamdan bahsettik bizim medyalarımızda. Hı hı. Sen bu konuda bize ne diyebilirsin, ne anlatabilirsin?
Öncelikli olarak hani bu katliam Türkiye'de yaşanmış en büyük katliamdı. Hani bir kere bunu vurgulamak gerekiyor. Bu katliamda 100 arkadaşımızı kaybettik. Gerçekten çok büyük bir saldırıydı.
Pour commencer, il faut préciser, il faut dire absolument que ce massacre qui a eu lieu, malgré l'histoire de la Turquie, est le plus gros massacre que nous ayons connu. Nous avons perdu plus de 100 camarades. Voilà.
Belki hani şuradan devam edebiliriz. Hani bu Ankara'daki yaşanan saldırının aslında daha önceden yaklaşık yani son bir yıldır benzer saldırılar vardı. Bunlardan biraz bahsedip ve bu saldırının hani gelişim sürecini anlatabiliriz. Yani bu tek başına bir saldırı değildi aslında. Yani bundan önce yaşanan saldırıların ve daha sonra yaşanacak saldırıların bir göstergesi, yapılan bir saldırıydı.
Mais il faut bien comprendre que ce massacre qui a eu lieu à Ankara est une continuité et la continuité de toutes les attaques qui a eu lieu depuis un an en Turquie et que l'analyse que nous devons faire du massacre d'Ankara ne peut pas être détachée de l'analyse que nous faisons de l'organisation des autres massacres qui a eu lieu en Turquie et qui vont encore avoir lieu dans le futur.
D'accord, très bien. Alors on peut est-ce que du coup on va reparler de ça. Est-ce que du coup juste tu peux nous préciser donc c'est une ou des bombes qui ont explosé pendant une manifestation. Est-ce que tu peux nous préciser d'une manifestation de quoi, de qui?
İşte biliyoruz ki bir mi iki bomba mı patlamış bu yürüyüşte, bu mitingde. Sen bize anlatabilir misin bu miting ne için, ne için toplandılar orada?
Bu miting son zamanlarda özellikle Türkiye'de ve Kürdistan'da yaşanan saldırılarla ilgili ve katliamlarla ilgili, bu devletin yapmış olduğu katliamlara karşı bir katliam protesto eden sendikaların, çeşitli sivil partilerin, organizasyonların yapmış olduğu bir miting çağrısıydı.
L'appel pour ce meeting, c'était un appel pour protester contre les massacres qui ont été organisés donc cette dernière année, particulièrement pendant la campagne, contre que ce soit les Kurdes ou pas, ou alors dans les villes en Turquie aussi. Et cet appel était lancé donc par l'Union des plus grandes centrales syndicales de Turquie, bien sûr soutenue par les organisations civiles d'opposition.
D'accord, très bien. Alors avant de parler encore des liens avec les autres attentats qui ont eu lieu, juste comme on est là-dessus sur celui d'Ankara, quelles ont été les réactions en Turquie du gouvernement et des syndicats suite à cet attentat?
Et bu katliamdan sonra hem devletin hem syndikaların pozisyonları nedir? Ondan sonra yani devlet bir taraftan, bir de sendikaların dedikleri nedir bu katliamın üzerine?
Şimdi devlet tabii ki hani her saldırıda olduğu gibi, her katliamda olduğu gibi bu durumu çok görmezden geliyor. Ya da çok da üzerinde durmadan bu durumu geçiştirmeye çalışıyor.
D'abord l'État turc fait comme pour tous les autres massacres, ne perd pas de temps du tout ni à regarder ni à perdre du temps à faire l'analyse et en parler plus que ça.
Ve devlet bu saldırıdan sonra bir takım açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Tabii bu açıklamaları, bu katliamla ilgili, çünkü bu eylem her zaman Türkiye'de, Ankara'da organize edilen bir eylemdi. Büyük eylemler, büyük bütün kentlerin katıldığı eylemler genelde Ankara'da organize ediliyor. Ve bu aslında yeni bir şey değildi, Türkiye'de yapılan bu eylem.
Cependant, l'État a été obligé de faire une déclaration, a été obligé de donner une position de l'État, car ce meeting qui a été organisé à Ankara n'est pas le premier, c'est normalement quelque chose de très habituel. Les plus gros meetings, ceux qui réunissent les gens qui viennent de toute la Turquie et du Kurdistan, parce qu'il y a des bus qui sont venus de toutes les villes, donc ils se sont réunis à Ankara, ces meetings-là s'organisent systématiquement à Ankara. Ce n'était pas la première fois, ce n'était pas le premier, d'ailleurs même dans la dernière période. Voilà.
Tabii, devlet bu saldırıda peki... İki bomba patladı bu saldırıda. İki bombalı eylem yapıldı. Ve bunun devletin kontrolünün dışında olmadığını çok iyi bir şekilde bu saldırıdan sonra da devletin yapmış olduğu açıklamalarda da gördük.
Nous savons très bien et nous le voyons dans leurs déclarations, dans les mots qu'ils utilisent, que ces deux bombes qui ont explosé n'ont pas explosé sans le contrôle de l'État, c'est-à-dire qu'elles ont directement explosé avec l'accord et le contrôle de l'État.
Bu Ankara bomba saldırısından hemen sonra polis 22 kişilik bir isim listesinin ellerinde mevcut olduğunu söyledi. Bu 21 kişilik isim listesinin den 2 kişi bu Ankara'daki bombalı eylemi yapan 2 kişiydi. Ve devlet daha sonra bombacıları dinlediğine dair, bu eylemi yapan, bu katliamı yapanlarına dinlediklerine dair telefon kayıtlarını açığa çıktı. Tabii bunlar bu saldırıdan hemen sonra açığa çıkan şeyler.
Alors, les informations qui ont très vite été données par l'État sur l'organisation du massacre pour se dédouaner, c'est que l'État a très vite, et aux médias et donc à la société civile, délivré une liste de 21 noms. 21 noms, en fait, qui étaient surveillés depuis très longtemps, 21 noms qui étaient suivis, qui avaient des écoutes téléphoniques, qui étaient suivis à leur domicile, qui s'étaient fait arrêter déjà au préalable, interrogés, où il y avait une enquête qui était ouverte à leur propos. Et ces deux bombes qui ont explosé, parce que ces deux bombes, du coup, bombes humaines qui ont explosé dans l'attentat d'Ankara, ce sont donc deux noms qui sortaient de cette liste.
Yani devlet dedi ki, bu saldırıda yapmış olduğu açıklamalarda, biz bu eylemi biliyorduk ve biz bu eylemi kimin yapacağını biliyorduk ve bunları dinledik ve biz bu eylemi yaptık. Yani devletin bu eylemden sonra yapmış olduğu açıklama, bu yapılan saldırıyı sahiplenen bir açıklamadır. Çok açık bir şekilde. Ve yeni saldırıların da geleceğinin göstergesidir.
La position et les mots qu'ont utilisé l'État et les représentants de l'État pour dans leur déclaration donc suite à cet événement, pour nous, nous le comprenons vraiment de cette manière, c'est prendre la responsabilité et assumer la responsabilité de cet acte. Nous savions que cela allait se faire, nous savions qui allait le faire, nous savions quand ils allaient le faire. C'est ce que ça veut dire. Et donc, nous savons aussi qu'il va encore rien avoir et que ça sera encore eux.
Çünkü devlet buna benzer saldırıları daha önce organize ettiği için 5 Haziran'da Diyarbakır mitinginde olduğu gibi 18 Mayıs'ta Mersin ve Adana'da HDP binalarına yapılan bombalı saldırılar gibi, Suruç'ta yapılan katliam gibi, bu katliamları yapanlar aslında Ankara katliamını yapanlarla aynı organizasyondu ve devlet bu arada bir yıl içerisinde bunu çok iyi biliyordu ve bunu bilerek, bu saldırının gelişeceğini görerek hareket etti.
Les massacres d'Ankara, comme nous disions, du coup, ne peuvent pas être analysés sans être en étant détachés des autres massacres qui ont lieu au préalable. C'est exactement la même organisation et les mêmes personnes qui sont responsables que pour les massacres de Diyarbakır le 5 juin. Mm-hmm. C'est la même organisation que pour l'attente, le double attentat du 16 mai contre deux bâtiments du HDP à Mersin et à Adana. Et c'est exactement la même organisation, les mêmes pratiques que lors du massacre de Suruç cet été le 20 juillet.
Oui, alors je vais juste rappeler vite fait que cet été le 20 juillet, le massacre de Suruç, c'était des gens de gauche qui faisaient une conférence de presse pour expliquer qu'ils amenaient de la nourriture et des jouets, etc., aux Kurdes de Kobané. Que l'attentat à Diyarbakır, c'était pendant un meeting du HDP, le parti du coup de gauche en Turquie, dans lequel il y a une majorité de Kurdes. Et Mersin, c'est du coup un local de ce même parti qui a explosé. Et Adana, c'était quoi ? Pareil, voilà, un local aussi. Voilà. Moi, il y a juste un petit truc sur lequel je voulais revenir, parce que nous, on a entendu, mais très vite fait, enfin moi d'ailleurs, je ne l'ai pas entendu dans les médias en France, mais qu'après l'attentat d'Ankara, par exemple, il y a certains médias qui ont été, certaines télés qui ont été interdites de diffusion ou coupées, ou certains. Enfin, est-ce qu'il y a eu un blocage des médias ou...
Ya bize bir ses geldi. Biz öyle duyduk. Şimdi dik Fransa'da söylemediler mi? Fransız medyalar da söylemediler bunu da. Biz bunu diğer bir kollardan bildik. Sen yani bunu tamamen bilmişsin. Ki katliamdan sonra, bu saldırıdan sonra, yani tam sonra bir karşı tane medya, televizyon olsun, gazete olsun hemen kapatılmıştı. Bu üzerine yani ses vermemek için ve propaganda etmemek için.
Yani şöyle bir karar aldı devlet bu saldırıdan sonra. 3 gün yayın yasağı getirdi. Bu yayın yasağını aslında birçok eylemden sonra yaptı devletin. Çok başvurduğu bir taktik. Aslında hani bunları yayınlasanız da, bunları işte basın aracılığıyla gösterseniz de, hani bugün hani birçok kişi biliyor ki bu işin devlet yaptığını. Ama devlet bugün hani demokrasi koşulları işlemiyor Türkiye'de. Yani faşizm koşullarıyla hareket ediyor. Alors, basının sesine dahi yani basının çıkartacağı bir farklı bir habere dahi tahammülü yok.
Alors oui, donc effectivement l'État juste après le massacre a décidé et a installé 3 jours en gros pendant 3 jours l'interdiction de s'exprimer, de manifester et de produire des articles ou quoi que ce soit, même de manifester dans la rue et tout. Cette pratique est une pratique assez courante, elle a été utilisée tout le long cet été, même dans les grandes villes comme à Istanbul ou autre. C'est vraiment une pratique très couramment utilisée par l'État, mais direct après le massacre, donc il y a bien eu 3 jours pendant lesquels il était interdit de manifester et tout. Cependant, même si l'État réprime et ferme la presse, les gens sont habitués, les gens connaissent. Enfin, maintenant, il n'y a plus besoin même que la presse le dise. Les gens le savent que de toute manière, c'est l'État qui était responsable.
Du coup, là, il va y avoir très bientôt des élections en Turquie. Il y a même, je pense, les Turcs, les gens de nationalité turque qui vivent en France, qui peuvent déjà voter ou qui l'ont déjà fait. Du coup, il va y avoir ces élections en Turquie. Est-ce que ça a un lien ? Est-ce que lui voit un lien ? Avec les attentats, les derniers attentats qu'il y a eu et l'augmentation, là, et la flambée de violence en Turquie, s'il y a un lien, lequel?
İşte biliyoruz ki 1 Kasım'da seçimler olacaktır. Ki işte Türkiye'ler gidip oy verecekler bu seçimlerde. Ki buradaki yani Avrupa'daki Türkiye'liler oy veriyorlar şimdikten başladılar başkonsolosluklarda falan. Sence bu katliamla ve diğer katliamlar ve saldırılarla bir alakası var mı seçimlerle?
Yani şöyle değerlendirebiliriz aslında. Yani seçim çok belirleyici bir şey olmuyor Türkiye'de. Yani bugün iktidar uzunca bir zamandır iktidar ve bundan önce 7 Haziran seçimlerinde HDP %13'e yakın bir oy aldı ve yani demokratik seçim kuralları içerisinde AKP tek başına iktidar olamadı ve bundan sonra olamayacağı da çok açık. Yani her geçen gün güç kaybediyorlar. Her geçen gün yani bu Bunun seçimde bir yansıması var tabii ki. Seçimlerde bir belirleyiciliği var ama seçimden öte yani o tabanda ciddi bir güç kaybediyorlar. Uluslararası konjektürde AKP güç kaybediyor. Aslında bu tek başına seçimle ilgili bir durum değil yani.
Alors, bien sûr que c'est un lien dans l'immédiat et dans la pratique maintenant, car ces élections ont déjà eu lieu le 7 juin dernier. Là, les élections qui ont lieu maintenant sont les élections anticipées, car le 7 juin dernier, le HDP, ayant passé la barre des 10% et obtenu 13%, a empêché Erdogan de devenir seul à la tête de l'État parce qu'il n'avait plus la majorité parlementaire. Ce qui fait qu'en fait, les démocrates, le HDP, a gagné dans les voies légales. Sauf qu'en fait, en Turquie, ça veut strictement rien dire et ça n'a jamais voulu rien dire parce que le pouvoir qui est en place actuellement, c'est le même pouvoir en continuité que nous avons depuis des dizaines d'années. Le HDP a gagné le 7 juin. Résultat, Erdogan fait des massacres. Il organise, il bloque la presse et machin, il relance des élections. Du coup, c'est ainsi qu'il faut l'analyser, c'est que bien sûr, c'est un rapport avec les élections, mais pas seulement. Parce qu'en fait, au fur et à mesure et chaque jour, l'AKP perd des sympathisants. Ils perdent leurs sympathisants, ils perdent leur crédibilité sur le terrain international. Et il faut comprendre que sur ce terrain légal, plus jamais l'AKP ne pourra gagner. Là, les prochaines élections, nous sommes sûrs que l'HDP va encore passer les 10%. Donc plus jamais il pourra gagner de cette manière. C'est pour ça qu'ils se sont coincés et c'est pour ça que la violence augmente à ce point-là. Ils perdent leurs sympathisants.
Du coup, moi, il y a une question qui m'intéressait aussi avant la fin, c'est est-ce qu'il peut... Est-ce que du coup, que vu qu'il vient d'un mouvement anarchiste, est-ce qu'il peut nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est le combat des anarchistes en Turquie en ce moment, comment ça se passe pour eux?
İşte bir anarşist militanı olduğun için Türkiye'de bize bir anlatabilir misin? Anarşistler Türkiye'de kimdir, ne yapıyorlar, durumların nedir, nasıldır?
Yani bu saldırılara binaen hani belki söylenebilir. Bu saldırıda Ankara'daki katliamda bir yoldaşımızı kaybettik. Anarşist sendikalist yoldaşımız Ali buradan ve bundan önce Suruç'ta kaybettiğimiz 5 anarşist yoldaşımızı da burada saygıyla anıyoruz. Şimdi Türkiye'de tabii anarşizm bunu istersen.
Alors désolé. Déjà tu peux surtout vous expliquer là maintenant quelle est l'implication des anarchistes dans le contexte actuel. Actuellement, pendant le massacre d'Ankara, nous avons perdu un camarade très très important, un camarade anarchiste et grand syndicaliste, Ali Kitapcı, qui a été pleuré par tout le monde et pas seulement par nous. Et à Suruç, nous avons perdu 5 de nos jeunes. Donc la situation des anarchistes, nous sommes partout, mais nous perdons aussi des vies.
Tabii bu gelişmeler, yani yaşanan bunca o faşizm koşullarında anarşizm bir nefes olarak ya bir hareket olarak kendisini var etmeye çalışıyor ve bu mücadele içerisinde aktif bir şekilde yer alıyor. Tabii anarşizm Türkiye'de artık yeni bir aşamaya geldi. Yani bundan önce anarşizm bir hareket olarak kendisini hep var olmaya çalıştı, yani emeklemeye çalıştı. Ama bugün bu kayıplar ve bu katliamlar karşısında yaşanan bu kayıplar anarşizmi yeni olan bir düşünce bu coğrafyada ve bunu anlatmak da anarşizme dair o ön yargıları özellikle o tamam.
Je vais traduire un peu. Alors tout d'abord l'anarchisme maintenant en Turquie vit et l'anarchisme prouve par ses activités qu'il est là, qu'il agit et qu'il est présent. Ce qui jusqu'à maintenant, notre lutte était déjà d'essayer d'exister, d'essayer de se construire. Maintenant, nous avons ouvert toutes ces voies et nous sommes présents, nous sommes représentés, nous avons une place importante et active dans la lutte qui est menée actuellement en Turquie, comme le montrent aussi les morts que nous avons eues.
La traduction
emekleme sürecinde yani yeniden anarşizmin anarşizme dair insanlar yeni tanışıyorlar. Yeni bu fikirle karşılaşıyorlar. Çünkü anarşizme dair gerek sosyalist hareketlerde gerekse tabanda bir anti propaganda vardı anarşizme dair. Yani anarşizm terörizmle.
Alors aussi pour dire que à travers nos activités, nous avons insufflé un nouveau souffle pour un nouveau mouvement en Turquie, celui de faire connaître qu'est-ce que l'anarchisme, celui de faire connaître les positions et les activités anarchistes en Turquie, qui jusqu'à maintenant étaient boycottées ou subissaient de la contre-propagande, même de l'intérieur des mouvements révolutionnaires, qu'ils soient socialistes ou autres, qui étaient relégués au rang de terroristes par l'État. Enfin, anarchiste voulait dire terroriste en Turquie, ce qui était très compliqué. Donc, surtout dans un pays où les mouvements révolutionnaires sont déjà très installés, très construits. Nous, actuellement, nous sommes en train justement de réussir à donner un nouveau souffle à ce mouvement en faisant connaître l'anarchisme.
Tabii bu yaşanan süreçlerde hani anarşizm kendisini bir hareket olarak